On accueille Théodore Besson, qui est chargé de recherche à l'IPT et qui va vous parler d'écologie industrielle et puis des enjeux que ça représente pour une institution comme l'Université de Lausanne. Voilà.
Merci Aurélie. Bienvenue à tous. Merci de consacrer quelques minutes pour découvrir ce qu'est l'écologie industrielle. Et puis on prendra quelques minutes juste pour voir ce que ça pourrait représenter comme perspective pour l'agenda 21 de l'Université de Lausanne. Alors historiquement, il y a une vingtaine d'années, un article est paru dans la revue américaine Scientific American où deux chercheurs de General Motors dit que le modèle simpliste, si vous voulez, d'activité industrielle devait plutôt être remplacé par un modèle qui est plus intégré, et ils ont lancé la notion d'écosystème industriel. Donc ça remonte à 1989 dans un article Strategies for Manufacturing, et c'est un petit peu donner naissance et populariser l'écologie industrielle. Donc en fait, traditionnellement, le système industriel est souvent perçu comme séparé de la biosphère. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le système industriel avec les activités dans le primaire, secondaire, tertiaire, avec donc le système socio-économique qui va prélever des ressources et de l'énergie dans la biosphère, qui va rejeter un certain nombre d'éléments, des déchets, dans l'eau, l'air et le sol. Et en fait, l'écologie industrielle va chercher à intégrer le système industriel à l'intérieur de la biosphère en le considérant comme un écosystème particulier. Donc on se retrouve avec le système industriel intégré à la biosphère. Question définition maintenant. Quand on parle d'écologie dans écologie industrielle, on fait référence à la science des écosystèmes, donc vraiment l'écologie scientifique et plus largement la biologie scientifique. Et l'adjectif industriel ici, il faut faire attention, ce n'est pas l'usine avec le panache de fumée, c'est vraiment l'ensemble des activités économiques, donc aussi bien les transports, l'agriculture, les télécommunications, etc. Donc c'est très large, c'est un petit peu une vision anglo-saxonne, si vous préférez. Maintenant, le cadre conceptuel de l'écologie industrielle. Donc on a notre système industriel, notre système socio-économique, qui va donc prélever des ressources minérales, des ressources fossiles, qui va prélever les produits de l'agriculture, de la chasse, de la pêche, qui va donc l'alimenter et permettre des fabrications, des processus, etc. Et on va avoir un certain nombre d'outputs, donc de flux sortants, si vous voulez, qui vont se retrouver dans des décharges, dans les eaux usées, il y a diverses émissions dans l'atmosphère, dont le CO2 évidemment. Et puis il y a également la problématique des pertes participation, les engrais, les pesticides qui vont se retrouver dans les nappes phréatiques, etc., dans les lacs, et peut-être même dans l'eau du robinet finalement. Et puis on a également des translocations, c'est-à-dire un certain nombre d'excavations ou l'irrigation, qui sont en fait souvent des flux cachés. Alors je vous donne juste quelques exemples. Tout d'abord, par exemple, l'empreinte matérielle pour ce petit anneau de platine qui pèse 4 grammes. Pour fabriquer un tel produit, on va mobiliser 5 tonnes de matériaux, dont 600 kg d'acier, juste pour se représenter, hein, pour ce tout petit anneau. Idem pour l'empreinte hydrique. Quand on boit un café, en moyenne, on va avoir une empreinte hydrique de 140 litres d'eau. Et donc, si on ramène ça par kilo de café torréfié, on a en fait 20 000 litres d'eau qui sont nécessaires pour produire ce kilo de café torréfié. Donc, on peut même dire que c'est environ 2% de l'eau utilisée dans l'agriculture mondiale. Dernier exemple avec ce Big Mac, pour environ 150 grammes de bœuf, on va avoir une très grande empreinte hydrique pour un hamburger, donc 2400 litres d'eau en l'occurrence. Maintenant, pour faire de l'écologie industrielle, on peut se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin. Alors, on a besoin de trois choses essentiellement. La première, c'est d'avoir un cadre conceptuel très rigoureux, très large. Et pour cela, on se repose sur une science qui est l'écologie scientifique, la science des écosystèmes, et plus largement aussi la biologie. Ensuite, on a une stratégie opérationnelle. Ça veut dire qu'on va chercher à mettre en œuvre concrètement et opérationnellement le développement durable sur le terrain. Par exemple, dans le cadre d'un agent 21, d'un agenda 21 pour l'Université de Lausanne. Et puis, on va chercher à avoir une stratégie collective, donc faire fonctionner ensemble les différentes parties prenantes du système industriel, on va voir des exemples, et puis donc coopérative, pour aller au-delà de la compétition, si vous voulez. Et pour cela, on aura besoin d'une échelle systémique. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on veut faire d'écologie industrielle? On va avoir deux objectifs principaux. D'abord, on va vouloir étudier l'écosystème industriel. Et pour ça, on va mesurer, compter, analyser, anticiper l'évolution du système industriel pour comprendre l'état des lieux, si vous voulez. Et pour cela, donc, on va s'intéresser aux flux et aux stocks de matière et d'énergie. Donc, dans ce cas de figure-là, ce qui est important de souligner, c'est que finalement, l'argent, qui est quand même une valeur immatérielle, ce n'est plus en fait la seule considération pour l'analyse du système économique. D'habitude, c'est plutôt des bilans financiers, vous êtes d'accord? Et donc, le deuxième volet de l'écologie industrielle va chercher à réorganiser, ou on parle aussi des fois d'éco-restructuration, du système économique dans son ensemble, et l'idée, c'est de le rendre compatible avec le fonctionnement des écosystèmes naturels, donc de la biosphère, si vous voulez. Et donc, pour cela, en fait, on va se rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'on va prendre en compte les contraintes de la biosphère. Donc, bien sûr, la biosphère, on le comprend bien depuis quelques dizaines d'années, il y a à disposition un nombre fini de ressources, et puis la biosphère a une résilience limitée. Si vous la perturbez trop, la biosphère, les écosystèmes ont une résistance, si vous voulez, limitée. Donc c'est important de prendre en compte ces contraintes-là, et de ce point de vue-là, la biosphère va devenir un modèle pour une bio-inspiration. Alors je vais vous donner trois exemples pour illustrer ces deux objectifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le métabolisme industriel. Donc, c'est une méthodologie, si vous voulez. On l'appelle aussi métabolisme des activités économiques. Et donc, dans ce cas de figure, on va considérer une activité économique. Or, ça peut être la production de médicaments en Suisse, le secteur de la pharmaceutique, par exemple. Et on va s'intéresser aux flux entrants de matières, donc les ressources nécessaires, les solvants, etc. Et on va s'intéresser à l'énergie nécessaire pour que cette activité économique tourne. Il va y avoir des variations de stock, et donc on va produire un certain nombre, ici par exemple, de médicaments ou produits pharmaceutiques, qui aura des déchets, et donc on va s'intéresser à ces flux. Et le principe, c'est Lavoisier en physique, on va s'intéresser à la conservation de la masse et de l'énergie. Alors, on peut faire ce genre d'approche de métabolisme industriel à l'échelle d'un territoire. Et par exemple, dans le cas de la Suisse, l'Office fédéral de la statistique suisse s'intéresse au niveau global à l'économie suisse, aux variations de stock, au recyclage et, si vous voulez, à toutes les matières qui traversent l'économie en Suisse. Donc, ils vont regarder les importations, l'extraction indigène utilisée. Donc, ici, on parle, si vous voulez, le bois qu'on va utiliser, les produits agricoles, les matériaux de construction. Donc, ça, c'est l'extraction indigène. Et puis, ils vont aussi s'intéresser à ces fameuses excavations ici. Si vous voulez, l'extraction indigène non utilisée, c'est en fait tout ce qu'on va monopoliser et déplacer, par exemple, pour construire des routes, bâtir des ponts, creuser des tunnels. C'est des flux gigantesques. Et on va aussi s'intéresser à tous les flux cachés liés aux importations, c'est-à-dire l'eau, les matériaux qu'on a dû utiliser hors de nos frontières pour les produits qu'on importe. Et donc, avec ce genre de méthodologie, on s'intéresse aussi, bien sûr, aux exportations, aux émissions dans la nature, nappes phréatiques et compagnie, on peut s'amuser à comptabiliser, si vous voulez, l'ensemble, par exemple, des besoins matériels qui représentent la somme de ces quatre flèches ici. Enfin bref, on a une méthodologie, un cadre pour faire ce qu'on appelle de la comptabilité physique, qui est différente d'une comptabilité financière classique. Donc c'est très intéressant pour prendre des bonnes décisions. Une deuxième méthodologie, maintenant, de l'écologie industrielle, qui découle de la précédente, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Donc là, on va s'intéresser par exemple à la production de mon ordinateur portable et on va tenir compte en fait de toutes les étapes du cycle de vie. Donc on parle du berceau à la tombe, c'est une approche berceau à la tombe, et on a donc aussi bien l'extraction des matières premières que les transports, la transformation de tous ces matériaux pour fabriquer l'ordinateur, pour le distribuer, l'énergie pour l'utiliser et puis aussi pour traiter en fin de vie un tel produit bourré de métaux lourds, etc. Donc là, en fait, on va s'intéresser essentiellement aux impacts potentiel en fait, de cet ordinateur. Par exemple, combien de kilos de CO2 vont être émis par kilo d'ordinateur, si vous voulez, ou combien de kilowattheures en termes énergétiques vont être utilisés. Ça, c'est une des approches. Donc, on peut, par exemple, faire l'analyse de cycle de vie d'une entreprise pharmaceutique. Et si on s'intéresse à toutes les étapes du cycle de vie, vous voyez ici recherche et développement, matières premières, production d'énergie, etc., on va se rendre compte que les kilos de CO2 par kilo de produit, donc de médicaments, clairement, sont dus au voyage, au transport, et en particulier, ici en blanc, au voyage des représentants. Donc là, on peut se dire, c'est probablement ici qu'il va falloir réfléchir pour avoir moins d'impact sur l'environnement, plutôt peut-être que d'acheter une nouvelle machine de la production d'énergie. D'accord ? Donc, on a un outil pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, au niveau de la réorganisation du système économique, il y a une stratégie opérationnelle de l'écologie industrielle. Sur le terrain, vraiment, on va essayer de faire une innovation bio-inspirée. Et là, l'idée de départ, c'est de s'inspirer en fait, du fonctionnement des écosystèmes et de la chaîne alimentaire, ou comme c'est plutôt un réseau de mailles, on parle de réseau trophique. Et donc, classiquement, donc, on a les végétaux qui produisent des molécules organiques qu'on va pouvoir manger, donc les herbivores les consomment. Ces herbivores sont mangés par des carnivores. Il peut y en avoir plusieurs, souvent tout en haut, il y a l'homme. Et puis, très important, il y a aussi les décomposeurs. C'est-à-dire qu'il faut bien pouvoir utiliser cette matière organique morte. Et donc, dans une approche comme ça, on peut aboutir à ce qu'on appelle des symbioses et des synergies industrielles. Donc là, l'idée, c'est en fait d'identifier quelles seraient les synergies possibles entre entreprises, si vous voulez. Donc regardez, ici, on a trois entreprises et on a identifié, avec les méthodologies dont je vous ai parlé avant, tout ce qui rentre, ici, il y a trois flux pour cette entreprise, et tout ce qui sort. Et en fait, pour autant que ces entreprises ne soient pas trop éloignées, on va chercher à favoriser les échanges de coproduits. Donc on va regarder si, par exemple, l'entreprise B n'a pas un flux sortant, donc ça peut être un coproduit ou parfois un déchet, comment est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé comme ressource par l'entreprise suivante ? Voilà, donc là, on fait une sorte de symbiose. Mais il y a aussi un intérêt qui peut être pertinent pour notamment le partage d'infrastructures ou de services. Par exemple, vous pourriez imaginer que deux entreprises mutualisent l'approvisionnement ou mutualisent le traitement de déchets. Concrètement, peut-être que certains camions vont devoir passer récupérer certains déchets ou les traiter, ça a un coût. Et ces entreprises, par exemple, pourraient aussi investir dans une machine qu'ils partagent, donc pour limiter leurs frais, pour par exemple traiter telle ou telle eau usée ou des choses comme cela. Donc on essaie de détecter les synergies industrielles. Et très concrètement, à Genève, par exemple, donc là j'ai un collègue dans mon groupe de recherche, Guillaume Massard, lui va s'intéresser à un certain nombre d'activités industrielles ici à Genève. Vous voyez, des industries dans une imprimerie, des industries chimiques, une usine qui produit la céramique. Et donc, l'expert, où on a aussi des outils informatiques, on va essayer d'identifier les flux qui peuvent être échangés. Et on va essayer donc d'associer les bonnes entreprises pour favoriser ces échanges. Donc là, par exemple, on voit que l'industrie du bois, les cendres produites ou les copeaux vont être utilisés, par exemple, dans ce cas de figure-là, pour produire de l'énergie, ou alors ça va rentrer dans la production de la céramique. Idem pour les pigments qui vont être utiles à cette entreprise. Les herbes séchées produisent de l'énergie, les solvants sont recyclés, etc. Donc on arrive à une approche au niveau régional, comme ça. Donc, avec ce genre d'approche, on a vraiment des solutions trois fois gagnantes. C'est-à-dire que, d'une part, chacune des entreprises économise de l'argent et en plus a moins d'impact sur l'environnement. Donc tout le monde est content, finalement. Maintenant, il faut juste faire attention à une chose avec l'écologie industrielle, c'est que souvent, on est amené à avoir un défi majeur, en fait. Et ce défi majeur, c'est l'effet rebond. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et typiquement, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'efficacité est efficace, si vous voulez. D'accord. Ici, on a une Toyota Prius. Alors, c'est formidable. 8 litres au 100 pour une voiture traditionnelle. Ici, on passe à 4,3 litres au 100. Résultat, on économise de l'argent. Vous êtes d'accord? Alors, il y a toutes sortes d'effets rebonds. Par exemple, avec cet argent, les utilisateurs vont parcourir plus de distance, vont peut-être avoir envie de s'acheter une voiture plus grande, plus lourde. Le nombre de voitures dans le parc automobile va augmenter. Et puis, alors, on va peut-être investir dans toutes sortes d'appareils qui utilisent de l'énergie, GPS, iPod, iPhone et compagnie, qu'on va plugger et qu'on va utiliser dans la voiture. Donc, toujours se dire attention à l'effet rebond. Donc, maintenant, pour remettre dans le contexte l'écologie industrielle par rapport à l'agenda 21 de l'Université de Lausanne, vous avez peut-être déjà vu la vitrine de l'agenda 21 à l'UNIL et des activités en lien avec la durabilité. Donc, c'est Campus Plus. Et là, j'aimerais juste remettre certains éléments sous l'angle de l'écologie industrielle. Donc, premièrement, pour ce qui est de boucler les flux de matière, si vous voulez, hein, de cycliser, si vous voulez, les flux de matière. Donc, on a un grand volume de déchets qui sont produits chaque année à l'UNIL, c'est plus de 650 tonnes. Donc une grande partie est collectée, avec une collecte sélective, donc, et cela, bien sûr, pour papier, verre, PET, alu et compagnie, mais aussi pour des produits comme des ordinateurs, en fin de vie, ou alors, très important, les cartouches, les toneurs, hein, des imprimantes. Voilà, donc il y a vraiment un tri sélectif, et puis il y a surtout plus de la moitié d'entre eux qui sont triés. Mais là, donc, il y aurait un certain nombre d'enjeux dans le cadre de cet agenda 21. Premièrement, ça va être de diminuer en fait, la production de ce volume de déchets qui ne cesse d'augmenter, malheureusement, donc prendre le problème un peu à la source, trouver des solutions. Il faudrait aussi songer à peut-être améliorer le pourcentage de tri, de ce volume de déchets, et puis chercher peut-être d'autres pistes pour valoriser ces déchets, que ce soit dans l'incinération ou pour la production d'énergie, etc. Il y a différentes pistes qu'on n'a pas le temps d'aborder ensemble maintenant, mais là, il y a toute une réflexion vu les volumes en jeu. Ensuite, il y a un volet qui s'intéresse plus à la minimisation, si vous voulez, des pertes dissipatives. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment, donc, on est un campus de 90 hectares, c'est grand. Et il y a par exemple 3000 m2 de vergers avec des dizaines de variétés de cerisiers, de pruniers, etc. Et là, donc, premièrement, il y a vraiment une gestion très durable. Donc, on ne va pas employer des engrais qui vont se retrouver dans la sorge à Chambronne et puis finalement dans le lac Léman. Donc là, on minimise vraiment les pertes. Et en fait, le campus est certifié nature et économie. C'est un label qui récompense une gestion durable du site. Alors, c'est clair que par rapport à l'EPFL, on a effectivement un site beaucoup plus vert. Donc, c'est plus facile d'obtenir ce genre de label. Mais en fait, ça montre aussi l'effort de maintenir toute une variété d'espèces indigènes sur notre campus. Et tout ça, c'est fort louable. Voilà. Et donc, pour vous donner un exemple, dans la lutte contre les parasites, les collaborateurs, les biologistes de l'UNIL cherchent justement à justement limiter les impacts. Et par exemple, au lieu de balancer des pesticides dans tous les sens, il va y avoir une lutte contre les parasites qui va utiliser, qui va par exemple employer des phéromones, donc des substances qui vont perturber le cycle de reproduction de ces parasites. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a aussi, quand c'est indispensable, les engrais qui vont être utilisés sont des produits phytosanitaires biologiques. Finalement, je vais donner deux ou trois exemples pour la décarbonisation. Donc là, il s'agit simplement d'avoir moins de carbone fossile utilisé, donc de remplacer les énergies fossiles par plus de renouvelables, décarbonisés. Et pour cela, on a notamment dans la mobilité toutes sortes d'incitations. Évidemment, il y a le sol. La majeure partie des collaborateurs et des étudiants sont vraiment poussés à venir en transport public. Il y a un parc de vélos à disposition avec Vélo Campus Roule. Ça, c'est très pratique avec sa carte d'étudiant de collaborateur pour se déplacer sur le site. Et puis, il y a les voitures Mobility. Ensuite, il y a la consommation d'électricité à l'UNIL qui, depuis quelques temps, est uniquement verte, donc de l'énergie hydraulique. Et quand même, il faut se dire que c'est plus de 20 millions de kilowattheures consommés par an, ce qui représente la consommation de 3 000 ménages. Donc, c'est vrai que si on s'amuse à faire le calcul par rapport au mix traditionnel qu'on achète ici en Suisse, on ne va plus consommer que 80 tonnes de CO2 au lieu de 2800 tonnes habituellement, donc c'est moins 97%. Je suis d'accord qu'il y a des effets rebonds dans le sens que voilà, il y a un certain impact sur le paysage, etc. Mais en termes de CO2, c'est vraiment une économie gigantesque. Il faut aussi se dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont fait une visite un petit peu des infrastructures de l'UNIL la semaine dernière dans les Midis Durables, mais il y a également plus de 1,5 million de mètres cubes d'eau qui est pompée du lac pour refroidir en fait les bâtiments. Donc là, il y a une quantité d'énergie substantielle qui est économisée. Et puis, dernier exemple, il y a en fait l'utilisation du parc informatique qui existe, donc en gros les salles de cours ou certains serveurs du centre informatique qui vont être utilisés pour ce qu'on appelle du cloud computing. Et en fait, il s'agit de, quand on a des projets qui sont vraiment avides en process informatique, et ben en fait, on va utiliser les ordinateurs en tâche de fond, si vous voulez. Donc on va s'éviter de racheter des ordinateurs juste pour faire des calculs, on va prendre ce qui existe et ce qui est disponible et pas utilisé. Voilà. Donc avec ça, on économise de l'énergie, notamment. Et puis pour finir, donc il y a d'autres enjeux plus généraux. Donc c'est clair que il faut coopérer, donc il y a des synergies possibles avec d'autres institutions, comme les PFL. Il y a aussi une politique d'achat durable qui maintenant va être un petit peu consolidée, notamment pour la restauration. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces Midis Durables, c'est aussi sensibiliser un petit peu l'ensemble de la communauté, aussi en faisant ces podcasts, etc. Donc, que ce soit les étudiants ou le personnel, d'ailleurs. Et puis, c'est important de souligner qu'on cherche une démarche participative des étudiants. Je veux dire par là qu'il y a des tas de projets qui peuvent être des projets de semestre ou parfois des projets de master. Pour vous donner un exemple concret, il y a énormément de manifestations qui ont lieu ici à l'université. Et donc là, il y a une gestion durable qui est nécessaire. Et par exemple, on a une étudiante dans notre groupe de recherche qui a produit une checklist de bonnes pratiques pour le Montreux Jazz Festival, donc de bonnes pratiques environnementales. Voilà, donc on a vraiment des projets qu'on peut lier ces études à finalement des projets de durabilité. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Et donc, il y a clairement un master en géosciences de l'environnement où il y a passablement d'écologie industrielle. Et donc, pour terminer, j'aimerais simplement souligner le fait qu'en fait, pour les étudiants, il y a vraiment de nouvelles opportunités pour des nouveaux métiers. Je vous cite quelques exemples ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous finiront quantificateurs d'impact ou alors vulgarisateurs de labels environnementaux. Peut-être que certains deviendront des analyseurs de données environnementales. Enfin bref, toutes sortes de formations qui pourront être données, enfin qui sont actuellement données à l'UNIL pour de nouveaux métiers. Donc avec ça, j'en ai terminé. Je vous remercie bien. Et puis surtout, je suis à votre disposition si vous avez des questions.